Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Midi 30, bienvenue dans le journal de la mi-journée.
À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, je suis donc venu annoncer donc un effort tout à fait significatif de l'État à hauteur d'un milliard d'euros, car la situation le justifie.
Un milliard, vous venez de l'entendre, fonds de solidarité exceptionnel annoncé ce matin par Jean Castex pour venir en aide aux agriculteurs touchés par deux semaines de gel intense. Réaction dans le journal de Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA. Dans l'actualité, les obsèques du prince Philippe en petit comité à Windsor, ce qui chagrine, vous l'entendrez un peu, les Britanniques qui auraient voulu suivre son cortège. Le début de la vaccination pour les enseignants et les policiers de plus de 55 ans, et ça ne fait pas recette, nous serons à Douai. La réunion des dirigeants de la gauche en ce moment dans un hôtel parisien à un an de la présidentielle pour éviter, dit Yannick Jadot, un second tour Le Pen-Macron, mais sans certains leaders comme Jean-Luc Mélenchon. Décryptage dans ce journal avec le politologue Bruno Cotterès. Le verdict attendu cette nuit aux assises de Paris dans le procès des policiers de Viry-Châtillon, 13 jeunes accusés de les avoir brûlés avec des cocktails Molotov. L'actualité sportive avec un basketteur, Rudy Gobert, sportif français le mieux payé au monde, 200 millions de dollars sur 5 ans. La météo, et malgré le retour du soleil, les températures restent encore fraîches, nous dira Valérie Darmon. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Je vous emmène dans l'espace. Thomas Pesquet décolle jeudi pour la Station Spatiale Internationale. Il va mener des expériences surprenantes en apesanteur, manger des emballages, porter un casque de réalité virtuelle. Et il embarque aussi avec un drôle de compagnon, un blob tout jaune.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Cela faisait des années que les agriculteurs français n'avaient pas connu une période de gel aussi intense et on a tous été marqués ces derniers jours par ces images qui paraissaient dérisoires avec des feux dans les vignes, par exemple pour réchauffer l'atmosphère, pour tenter de sauver des vignobles. Alors à situation exceptionnelle, aide exceptionnelle, c'est ce que Jean Castex vient d'annoncer, Jean-Jacques Herry, 1 milliard sous forme de fonds de solidarité.
Oui, le quoi qu'il en coûte, c'est aussi pour les agriculteurs. Le Premier ministre a donc annoncé ce matin un fonds de solidarité massif. Il existait déjà des fonds d'urgence, mais il ne fonctionnait que pour les viticulteurs et pas, par exemple, pour les arboriculteurs. Et là, ce fonds va pouvoir indemniser tous ceux qui sont touchés par cet épisode de gel quasi historique, faut le rappeler. Et même s'il va y avoir un plafond, l'idée, c'est vraiment d'indemniser en fonction des pertes réelles. Ce fonds, il sera aussi ouvert aux entreprises qui se trouvent en aval des filières et qui sont touchées, elles aussi, par l'absence de récolte à conditionner ou à transformer. L'exemple typique, ce sont par exemple une entreprise qui va fabriquer des confitures. C'est donc une aide massive qui a été décidée pour aider un secteur durement touché.
Et on va écouter tout de suite d'ailleurs la réaction de la présidente de la FNSEA que vous venez de joindre, Jean-Jacques, Christiane Lambert.
La rapidité avec laquelle le Premier ministre a décidé de ce plan en lien avec le ministre de l'Agriculture est une bonne nouvelle. C'est une situation dramatique et exceptionnelle qui appelait une réaction rapide. Pour le seul secteur de la viticulture, c'est plus de 2 milliards de pertes. Donc si on ajoute tout le secteur des fruits plus une partie des grandes cultures, il y a eu plus de 3 milliards de pertes en France. Et le montant d'un milliard d'euros avancé, qui reste à vérifier certes, est de bon niveau par rapport à l'ampleur des pertes. Ça ne couvrira pas toutes les pertes, mais c'est une bonne annonce et qui était fortement attendue par les viticulteurs, les arboriculteurs et tous ceux qui ont été touchés, producteurs de petits fruits et autres. La France doit bien ça à son agriculture, qui tient à bout de bras depuis un an, mais qui fournit toute l'alimentation dont les Français ont besoin. Cette reconnaissance énoncée par le Premier ministre est également quelque chose d'important.
Voilà la réaction de Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, alors que, je vous le rappelle, Jean Castex a donc annoncé ce matin une aide exceptionnelle pour les agriculteurs victimes du gel, 1 milliard sous forme de fonds de solidarité.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
Et direction maintenant Windsor, où seront célébrées cet après-midi les obsèques du prince Philippe, des obsèques qui auront lieu en petit comité, un choix voulu par le prince et qui, vous allez l'entendre, chagrine un peu ceux qui auraient voulu lui rendre un dernier hommage. Toute la cérémonie aura lieu dans l'enceinte du château sans que le public ne puisse suivre le cortège, mais elle sera retransmise à la télévision pour que les Britanniques partagent ce moment avec la famille royale. Et il y a quelques minutes, Anaïs Cordoba, le cercueil du duc d'Édimbourg a quitté la chapelle privée où le prince Philippe reposait depuis une semaine.
Oui, le cercueil du prince recouvert de son épée et de sa casquette de la marine a rejoint le hall du château. Dans quelques heures, il sera emmené vers la chapelle Saint-Georges par une procession composée de militaires et de membres de la famille. À l'extérieur du château, quelques dizaines de personnes sont réunies, comme Tony, qui est venu spécialement du Pays de Galles.
Il méritait que beaucoup de monde vienne commémorer sa vie. Il a toujours été discret sur ce qu'il faisait pour le pays. Et ce n'est que maintenant qu'il est mort qu'on en apprend plus sur tout ce qu'il a fait.
Et malgré la sobriété de l'événement, l'émotion est forte à Windsor. Ça va être dur d'imaginer la reine sans le prince, me raconte Vicky, une habitante bouleversée.
C'est une journée très triste. On compatit avec la famille. D'une certaine manière, c'est un peu notre famille aussi, car nous vivons côte à côte. J'ai beaucoup de peine pour la reine de perdre l'homme qu'elle a aimé pendant plus de 70 ans, c'est tellement triste.
Elle suivra la cérémonie religieuse à la télévision qui débutera à 16h par une minute de silence national.
Anaïs Cordoba, Windsor pour Europe 1. En France, nouveau coup d'accélérateur ce week-end pour la vaccination avec des créneaux spécialement ouverts à partir d'aujourd'hui pour certaines professions comme les enseignants et les policiers de plus de 55 ans. Alors je dis coup d'accélérateur, ça c'est la volonté du gouvernement, mais dans le centre de vaccination de Douai où vous vous trouvez, Maximilien Carlier, pour l'instant il y a peu de candidats à la vaccination avec ce type de profil parce que depuis ce matin vous voyez plutôt des gens plus âgés toujours pas vaccinés.
Oui, tout à fait Fabienne. Aucun ADSEM, aucun agent spécialisé en école maternelle par exemple, aucun policier, aucun gendarme. Pour tout vous dire, sur la matinée, j'ai rencontré un seul enseignant, Christophe, 58 ans. Il a le profil donc, mais il n'est pas resté bien longtemps dans la file d'attente.
J'en ai profité aujourd'hui puisque c'est ouvert.
AstraZeneca, Pfizer, pas d'importance ?
Pas d'AstraZeneca. Si c'est AstraZeneca, je m'en vais.
C'est de l'AstraZeneca.
C'est de l'AstraZeneca ? Bon, bah voilà, je vais vous laisser alors. C'est retiré dans certains pays, etc. Donc je vois pas pourquoi je prendrais le risque. Je préfère garder mon masque dans ce cas-là.
Ce professeur des écoles a donc fait demi-tour. Ici, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup de retraités dans la file d'attente. 65, 70, 75 ans et toujours ce même problème qui revient.
Donc, on est venu sans rendez-vous parce qu'on n'arrive pas à trouver un endroit où se faire vacciner ni avoir un rendez-vous.
Et par téléphone, soit le répondeur est saturé, soit ça répond pas. Donc il faut se déplacer.
Et pour ces retraités, il y a également une forme de réticence à se faire vacciner avec de l'AstraZeneca. Il y a 800 doses à écouler ce week-end. Pour ceux qui voudront bien, m'a expliqué la coordinatrice du centre.
Oui, Maximilien Carlier, donc à Douai pour Europe 1. Vous parliez à l'instant de défiance par rapport à l'AstraZeneca. Notez que l'Agence nationale de la sécurité du médicament a annoncé hier soir 9 nouveaux cas de thrombose, c'est-à-dire de caillots sanguins atypiques et 2 cas de troubles de la coagulation associés à ce vaccin. Signalé entre le 2 et le 8 avril avec 4 décès supplémentaires, ce qui porte à 23 le nombre de thromboses et 8 le nombre de décès sur plus de 2 700 000 injections. Les derniers cas d'effets secondaires étant apparus sur des personnes un peu plus âgées, en moyenne 62 ans. Plus de 2 heures maintenant que la réunion des partis de gauche a commencé dans un hôtel de l'Est parisien, une réunion à l'appel de l'écologiste Yannick Jadot à 1 an de la présidentielle, alors que même avec une candidature unique, les partis de gauche ne se qualifieraient pas pour le second tour, selon certains sondages. Claudia Bertram, vous suivez cette réunion pour Europe 1, alors avant de voir avec vous ce qu'il faut en attendre, déjà dans quel état d'esprit ces dirigeants sont arrivés ?
Eh bien, écoutez, Fabienne, tous sont prêts à discuter, mais pas forcément avec les mêmes objectifs. L'écologiste Yannick Jadot, à l'initiative de cette réunion, a accueilli chacun des participants à l'entrée de l'hôtel ce matin. Et à 1 an de la présidentielle, l'enjeu est de taille.
L'enjeu, c'est de travailler sur le fond, c'est de se donner une feuille de route qui amènera un rassemblement et à une candidature commune qui sera la condition indispensable pour gagner en 2022.
La maire de Paris, Anne Hidalgo, potentielle candidate à la présidentielle, est-elle aussi arrivée dans un esprit de travail pour parvenir à l'union ?
Il faut la construire, c'est une question de travail et d'engagement et d'humilité et de volontarisme, mais en ayant toujours vraiment à l'esprit les Français. C'est pour eux qu'on doit se réunir.
Mais forcément, chacun est venu avec ses propres ambitions et intérêts. L'insoumis Éric Coquerel est là pour représenter Jean-Luc Mélenchon, déjà déclaré candidat.
On pense que et le programme L'Avenir en commun et la candidature Jean-Luc Mélenchon est la meilleure pour espérer gagner. Et il n'y a pas que nous qui le disons. Si je regarde à peu près tous les sondages, dans le camp progressiste, on va dire, la candidature de Jean-Luc Mélenchon à elle seule équivaut à toutes les autres candidatures.
Les participants sont sur le point de sortir. Il n'y aura pas de déclaration commune, plutôt des déclarations individuelles et tout de même une photo de famille.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. Et on décryptera justement cette photo de famille avec le politologue Bruno Cotterès, chercheur CNRS au CVPF. Il sera mon invité dans une dizaine de minutes. Les jurés ont commencé à délibérer depuis ce matin aux Assises de Paris dans le procès des policiers brûlés à Viry-Châtillon. C'était en 2016, brûlés lors d'une attaque avec des cocktails Molotov. 13 jeunes sont accusés de les avoir lancés. Le verdict ne devrait pas tomber avant cette nuit. Verdict très attendu dans ce procès en appel, car plusieurs de ces jeunes avaient été acquittés en première instance. Le parquet général a requis cette semaine des peines allant de 12 à 25 ans de réclusion criminelle et un acquittement. Gladys Laffitte.
Oui, un procès qui s'est tenu à huis clos car certains des accusés étaient mineurs au moment des faits. Mais le verdict reste très attendu. On se souvient des images de ces deux voitures de police en flammes visées par 13 cocktails Molotov. 4 agents avaient été blessés, dont 2 très grièvement. Ils en ont d'ailleurs toujours les séquelles. C'est le cas de la policière que défend maître Thibault de Montbrial.
C'est un procès qui concerne les hors terrorisme, les faits les plus graves qui ont été commis contre des forces de l'ordre en France depuis une dizaine d'années. Dans le milieu des forces de l'ordre, il y a beaucoup d'attentes autour de ce procès. On sait que la situation est extrêmement tendue, elle est encore plus qu'en 2016. Personne ne comprendrait que la peine ne soit pas à la hauteur de la sauvagerie des faits.
À l'issue du verdict en première instance en décembre 2019, c'est le parquet général qui avait fait appel des 5 acquittements et des peines allant de 10 à 20 ans de réclusion criminelle. Cette semaine, les avocats généraux ont requis entre 12 et 25 ans de réclusion contre 12 accusés et ont estimé qu'il fallait acquitter le 13e.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1 qui nous fera vivre ce verdict justement ce soir et demain matin sur Europe 1. C'est une affaire criminelle vieille de 10 ans qui est peut-être en passe d'être résolue. En 2011, le milliardaire Claude Drey était retrouvé mort dans sa luxueuse villa de Neuilly-sur-Seine. Cet homme ayant fait fortune dans l'immobilier avait été abattu de 3 balles. Pour la première fois, un suspect vient d'être mis en examen. Pas n'importe qui, un homme qui est en prison et qui était libérable bientôt. Arnaud Mirmand, le plus grand escroc français, Guillaume Biais.
Il est connu pour ce que l'on a appelé le casse du siècle, la fraude à la taxe carbone qui a coûté des centaines de millions d'euros à l'État. Arnaud Mimran, 49 ans, est un golden boy, ancien trader, joueur invétéré et déjà condamné à de la prison ferme. Mais lui qui a toujours affirmé ne pas avoir de sang sur les mains est désormais poursuivi pour l'assassinat de son ex-beau-père, le milliardaire Claude Drey. Un dossier aux allures d'énigme criminelle depuis 10 ans, sans vol ni effraction. Une décennie que les policiers soupçonnaient Arnaud Mimran sans avoir de preuves formelles. Mais de nouveaux éléments ont récemment fait basculer le dossier, avec pour lui une double accusation, assassinat dans l'affaire Claude Drey et meurtre dans un autre dossier, la mort un an auparavant de Samy Souyed, tué porte-maillot à Paris, un ancien complice d'Arnaud Mimran dans les escroqueries à la taxe carbone. Des charges lourdes qui pourraient le maintenir en détention plusieurs années encore, lui qui était libérable dans quelques semaines.
Guillaume Biais, chef du service police-justice d'Europe 1. L'actualité sportive avec Lille qui a dû se contenter d'un match nul un partout hier en Ligue 1. Et puis c'est le basketteur Rudy Gobert qui est le sportif français le mieux payé dans le monde, figurez-vous. Il a encore fait des étincelles avec la NBA. Il vient de signer un contrat de 200 millions de dollars sur 5 ans. Le géant de 2,16 m s'est confié en français depuis les États-Unis.
Je suis déjà motivé pour être le meilleur défenseur au monde chaque fois que je mets les pieds sur le terrain. Donc les déclarations, ça peut me faire rire. Voilà, et je respecte aussi l'ambition que certains joueurs ont, c'est normal. Chacun a envie d'être le meilleur dans ce qu'il fait et ces joueurs-là sont des très bons défenseurs que je respecte. Mais voilà, la réalité, c'est le terrain et c'est les actions. Donc, parler, au final, c'est du bruit, quoi.
Voilà, Rudy Gobert avec Axel May. Et notez que son club, le Utah Jazz, joue ce soir contre les Los Angeles Lakers sur Bein Sport. Un match à suivre sur Bein Sport à partir de 22h30. Et puis, vous vous souvenez sûrement de cette musique. C'est forcément un générique qui vous trotte dans la tête qui vous a trotté dans la tête pendant 8 ans. La série Game of Thrones fête aujourd'hui son 10e anniversaire, l'histoire de cette famille qui se dispute le trône d'un royaume imaginaire peuplé de créatures magiques. Les épisodes de la dernière saison sortis en 2019 avaient rassemblé près de 45 millions de téléspectateurs américains en moyenne, des millions en France. Margot Barallon nous explique la raison de ce triomphe.
Un grand succès, c'est d'abord du grand spectacle. Les créateurs de Game of Thrones ont voulu concurrencer le cinéma avec un budget colossal, jusqu'à 15 millions de dollars par épisode, pour mettre en scène des batailles épiques et des dragons.
Nous allons reprendre tout ce qui m'a été volé et anéantir ceux qui m'ont fait du mal. Nous allons ravager des armées.
En arrivant après l'adaptation du Seigneur des Anneaux au cinéma, Game of Thrones a profité du retour en grâce de la fantasy. La série a su aussi saisir l'air du temps, selon Nicolas Allard, spécialiste de pop culture.
On est depuis le début du 21e siècle dans un certain désamour de la politique. Game of Thrones, justement, correspondait bien à cette volonté de décrypter la politique. Et d'ailleurs, c'est le personnage de Tyrion Lannister, qui est l'un des personnages les plus aimés des fans, qui incarne cet intérêt justement pour le pouvoir, pour l'application du pouvoir, mais aussi pour la conquête de celui-ci.
Avec le piratage, certaines saisons de Game of Thrones ont dépassé le milliard de vues, un record jamais égalé depuis. Attendue prochainement, la série adaptée du Seigneur des Anneaux, qui a coûté 1 milliard de dollars à Amazon, espère bien lui ravir la couronne.
Margot Barallon, que vous retrouvez dans Clap cet après-midi à 14h. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi et les températures ont du mal à remonter, Valérie Darmon.
Effectivement, toujours inférieur au normal, même si on gagne à 2 degrés par rapport à hier, avec cet après-midi des valeurs entre 11 à Rodez ou encore à Aurillac et 17 à Nîmes. À Paris, Lyon, Reims et Angers, il fera 14, 15 degrés annoncés à Marseille, à La Rochelle et au Mans. La masse d'air va continuer de se réchauffer progressivement, faisant atteindre leur niveau de saison aux températures pour cette troisième semaine d'avril. Une douceur normale avec des températures dans l'après-midi pour la semaine prochaine qui devrait atteindre 15 à 18 au nord dans les terres et 16 à 22 sur la moitié sud. Donc patientons. Côté ciel, variable tendance beau aujourd'hui et plus ou moins nuageux sur les deux tiers nord. Très beau sur la façade ouest, surtout sur le littoral, et nuageux et pluvieux le long du pourtour méditerranéen, orageux même en Corse.
Merci Valérie Darmon.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
À suivre, nous allons revenir sur la réunion des dirigeants de la gauche. Tous les partis ont répondu présent à l'appel de l'écologiste Yannick Jadot, mais pas forcément avec leur leader. L'union de la gauche est-elle possible à un an de la présidentielle? Est-ce que ça veut dire aussi que cela doit se concrétiser par une candidature unique? Est-il envisageable d'aller à ce scrutin en ordre dispersé? On en parle avec le politologue Bruno Cotterêts. Décryptage dans un instant.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
Photo de famille de la gauche attendue à un an de la présidentielle avec la réunion ce matin dans un hôtel de l'Est parisien à l'appel de l'écologiste Yannick Jadot. Bonjour Bruno Cotterêts.
Bonjour.
Politologue, chercheur CNRS au CEVIPOF, merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. Alors l'objectif affiché de Yannick Jadot, qui a bien montré d'ailleurs ce matin en accueillant devant l'hôtel tous ses dirigeants, que c'était lui qui était la puissance invitante ou au moins à l'initiative de cette table ronde. Son objectif, il l'a dit, c'est d'éviter un duel Marine Le Pen-Emmanuel Macron au deuxième tour. Est-ce qu'on peut encore l'éviter ?
Oui, l'élection est assez loin. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est dans un an. Il faut jamais oublier qu'une élection, elle a sa dynamique à elle. L'élection, c'est dans un an. Donc aujourd'hui, eh bien, les différentes forces politiques, et notamment les forces politiques de la gauche, essayent de redonner espoir au camp de la gauche, qui a quand même été extrêmement marqué, traumatisé même par l'élection de 2017, les 6% de Benoît Hamon, l'impossibilité derrière de faire émerger eh bien, une nouvelle dynamique pendant les premières années du mandat d'Emmanuel Macron. Donc l'objectif de Yannick Jadot, bah, c'est d'essayer de mieux préparer pour les différents candidats de la gauche la présidentielle. Mais il y a évidemment aussi un objectif stratégique plus personnel pour Yannick Jadot, essayer de s'imposer comme la figure qui incarne cette tentative d'unité.
Alors, préparer la gauche pour éviter ce duel de Yannick Jadot, mais est-ce que la gauche est vraiment bien placée pour le faire? Quand on voit notamment ce sondage IFOP pour le JDD la semaine dernière qui montre que même unie, la gauche ne se qualifierait pas pour le second tour.
Oui, la gauche est dans une situation difficile. Il lui reste à montrer au peuple de gauche, à son électorat, eh bien qu'elle a des propositions. Et donc c'est un des objectifs de Yannick Jadot, qui est progressivement de faire émerger pour les électeurs de gauche, eh bien un certain nombre d'idées, peut-être aussi un certain nombre de mots-clés communs aux différents candidats, aux différentes formations politiques de la gauche, parce que vous l'avez dit, la gauche est dans une situation très difficile, elle n'est pas remise complètement de l'élection de 2017, et puis il y a toujours au sein de la gauche eh bien un certain nombre de nuances, de différences, voire un peu plus sur un certain nombre de sujets. Il faut aussi distinguer les électeurs et les stratégies des candidats. Quand on regarde la sociologie des électeurs, on y trouve souvent beaucoup plus d'unité qu'entre les candidats.
Alors on va écouter ce que disait ce matin le patron du Parti Socialiste Olivier Faure, c'était dans la matinale d'Europe 1.
Il est temps pour la gauche de réveiller sa propre force et de réveiller l'espoir pour les Françaises et les Français. Il est temps, un an avant l'élection présidentielle, il est temps de faire en sorte que les choses changent, bougent enfin. Ce qu'il faut ce matin, c'est se fixer des objectifs qui soient des objectifs clairs.
Lesquels ?
Se fixer d'abord un agenda. À quel moment nous arriverons à un projet commun ? À quel moment nous arriverons à un candidat commun ? Et prendre l'engagement que ce sera le cas. Et donc maintenant, c'est la nécessité absolue de dire aux Françaises et aux Français, oui, il y aura une alternative en 2022. Oui, vous ne serez pas condamné à avoir à chaque fois cette espèce de duel imposé. Vous aurez la possibilité de voter pour la gauche parce que la gauche sera là et qu'elle sera bien présente.
Voilà, Olivier Faure qui disait aussi ce matin sur Europe 1, arrêtons le bal des égaux, qui note aussi, qui parle de candidats communs, de programmes communs. L'Union de la gauche, c'est pas forcément une candidature unique, justement.
Non, l'Union de la gauche, c'est pas forcément une candidature unique. Il faut distinguer deux aspects. Un aspect de candidature unique qui, on va le dire franchement, a l'air quand même mal parti pour le moment, avec un Jean-Luc Mélenchon qui, de toute façon, ira à l'élection présidentielle. Par contre, il y a un autre aspect qui est d'essayer de préparer, si jamais un candidat de la gauche se qualifiait pour le deuxième tour, eh bien de préparer la stratégie de ralliement et que les électeurs de gauche ne trouvent pas que tout ça est un peu improvisé à la dernière seconde. Donc mettre en place aujourd'hui effectivement à la fois des rencontres, mais peut-être aussi faire émerger des thèmes et éventuellement donner le sentiment aux électeurs de gauche d'un contrat de gouvernement qui se prépare, c'est aussi pouvoir préparer un éventuel le deuxième tour dans l'unité.
Vous disiez vous-même que cette candidature unique de gauche ou cette union de la gauche, c'est un peu quelque chose qui se répète toujours ou un fantasme rêvé qu'on n'arrive jamais vraiment à faire aboutir.
Vous savez, la question de l'unité à gauche et la question des différences à l'intérieur de la gauche, ça ne date pas d'aujourd'hui. Rappelons-nous les années 1970-1980, l'émergence de l'union de la gauche progressivement avec des difficultés réelles entre communistes et socialistes, et puis quand même la victoire de François Mitterrand en 1981. La gauche, eh bien depuis de très nombreuses décennies dans l'histoire politique française récente, elle est effectivement diversifiée. Son rapport à l'économie, plus récemment, on va dire au cours des décennies récentes, son rapport à l'intégration européenne qui continue à gauche, eh bien, d'introduire des différences d'appréciation. C'est une des dimensions sur lesquelles la gauche a sans doute le plus de difficultés à faire émerger de la cohérence.
Alors aujourd'hui, autour de la table ce matin, il y avait Yannick Jadot, il y avait aussi Anne Hidalgo, hein, pas candidate déclarée, mais évidemment beaucoup sondée. Hein, on lui donne 5-6%, je crois, dans un dernier sondage pour la présidentielle. Qui pour incarner cette union, justement, s'il fallait unir les forces ?
Alors c'est là où on voit la difficulté de la tâche, parce qu'il y a une pluralité de critères. Il y a le critère qui est le critère de l'intention de vote. Mais on l'a dit, on est à un an de la présidentielle, donc l'intention de vote ou les intentions de vote, elles peuvent encore pas mal bouger. Mais il y a aussi la capacité à incarner la fonction présidentielle. C'est quand même de l'élection présidentielle dont il s'agit. C'est pas la même chose que les élections européennes auxquelles Yannick Jadot avait réussi un très bon score, hein, 13%. Donc là, c'est autre chose. Il y a aussi là, donc, la capacité à incarner la fonction présidentielle et la capacité à incarner un point un peu médian. Les écologistes, les socialistes, les insoumis, les communistes, donc cette capacité aussi à parler à toutes ces différentes familles politiques, et c'est bien ça l'un des sujets importants pour la gauche, arriver à trouver la personnalité qui incarne aux yeux des Français un profil de président de la République, et aux yeux de la gauche, un profil de quelqu'un qui est une personnalité de synthèse.
Sachant que certains journaux titraient par rapport à la majorité plurielle qu'on avait en 2002, qu'on était plutôt dans une minorité plurielle effectivement actuellement à gauche. Une dernière question, Bruno Cotterêss, il y a en ligne de mire évidemment les régionales, ça pourrait être le premier moment justement où on voit cette union de la gauche. Or on voit que il y a toujours des tractations en cours, notamment dans la région Rhône-Alpes par exemple, Najat Vallaud-Belkacem qui espère toujours pouvoir faire un deal, on va dire, avec les écologistes. Pour le moment, cette union de la gauche, on ne la voit pas vraiment, à part dans les Hauts-de-France.
Oui, parce que ces élections régionales vont avoir évidemment un poids absolument stratégique dans les questions dont nous sommes en train de parler. Il est bien évident que si le Parti socialiste arrive à conserver les régions dont il est à la tête, eh bien forcément ça lui donnera un argument pour dire, eh bien voilà, dans une projection nationale, on a davantage, nous, de dynamique que les écologistes. Si les écologistes arrivent à remporter une ou deux régions, eh bien évidemment, ils pourront dire, eh bien, dans la foulée des élections européennes, des élections municipales, l'écologie a le vent en poupe, donc ces élections régionales vont être évidemment un thermomètre très important de l'état des rapports de force au sein de la gauche.
Et quand on vous écoute, Bruno Cotterêts, on se dit quand même que ce duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen qui se dessine dans les sondages semaine après semaine, pour l'instant, tient quand même la corde.
Pour le moment, on est encore loin. Il y a des éléments de fragilité, des éléments de force pour chacun des deux candidats. Emmanuel Macron devra répondre à la triple question. Au bout d'un mandat, qui est-il? Qu'est-ce que c'est que le macronisme aujourd'hui? Un deuxième mandat, pourquoi faire? Et aussi la question des alliances. Un deuxième mandat avec qui? Marine Le Pen, elle a un gros challenge qui est de montrer aux Français qu'elle est maintenant vraiment dans l'incarnation de la fonction présidentielle, qui était le point sur lequel elle avait eu beaucoup de mal en 2017.
Merci beaucoup Bruno Cotterêts d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Je rappelle, politologue, chercheur CNRS au CEVIPOF. Merci à vous. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Je vais vous emmener, je vous le disais, dans l'espace Thomas Pesquet, décolle jeudi pour l'ISS, la Station Spatiale Internationale. C'est son deuxième séjour dans l'espace et du coup, il en a ramené des idées du premier séjour, notamment manger des emballages, porter un casque de réalité virtuelle. Il va même embarquer avec un drôle de compagnon, un blob tout jaune. Vous pouvez voir la photo d'ailleurs sur le compte Twitter de Benjamin Peter et sur le mien relayé par Europe 1. C'est dans un instant.